Gemma Bovary de Posy Simmons.
Adaptation radiophonique Lili Stein.
Cinquième épisode.
Illusion perdue.
It's done. Charlie et moi avons fait le grand saut au-dessus du Channel pour nous installer dans la maison que je viens d'acheter en Normandie. Adieu Londres et ses fumées. Adieu Hackney, ses clodos et ses junkies. Adieu Judy et les enfants. À nous le bon pain, le vin, le fromage et le calva, l'herbe verte et les vaches normandes. À nous le retour à la terre, à la vie simple et rustique.
Les choses sont allées plus vite que d'habitude. Et il y a 5 raisons au désenchantement de Gemma. Premièrement, la maison. Elle avait besoin de sérieux travaux, à l'exception d'un peu de plomberie et d'électricité, les Bovary n'ont rien fait. Peut-être par manque d'argent, plus probablement à cause de la manie de Gemma pour l'authentique. Elle a dû néanmoins dépenser un paquet pour l'ameublement. Un tas de cochonneries, certaines apportées d'Angleterre, d'autres trouvées en France, couvre-lits anciens, tabourets de traite, fléaux, fers à castrer. C'est l'agencement de ces objets qui lui a procuré ses heures les plus heureuses. Aucun maître flamand n'aurait pu mettre plus d'efforts à assembler une nature morte.
À mes yeux, c'était la création d'une sorte de perfection, dont la beauté simple devait déteindre sur la vie elle-même. Et au final, les résultats ressemblaient à une foutue boutique de brocanteurs, vieillots, ringards, bidons, que de la merde.
D'autres problèmes s'annonçaient. Moisissure, fuite, c'était trop petit, trop sombre, avec une lumière marronasse, ça donnait l'impression de vivre dans un plumier. Pas d'intimité, on entendait les gens au WC, et quand on recevait des invités, les canalisations se bouchaient. Personne ne revenait jamais, sauf les enfants de Charlie, bien obligés d'être là pour les vacances. Mais tandis qu'ils extériorisaient leur dégoût, Gemma gardait le sien pour elle. Elle ne pouvait pas se plaindre, tout ça, c'était son idée.
Je m'attends sans cesse à ce que Charlie commence à me reprocher de nous avoir fait acheter cette décharge. Mais il s'abstient. Il ne dit rien, ce qui est bien pire. Il ne se plaint jamais. Il est complètement détaché, comme si la maison n'était pas son problème. Si je lui signale une catastrophe, il la minimise. Il me ménage. Vraiment condescendant. Ça me rend dingue.
Une fuite ou deux, ça arrive toujours. Une vieille maison, vide pendant des mois. On s'attend à ce genre de problème.
Mais je m'y attendais pas, Charlie. La maison est froide, humide, elle pue l'égout. Elle est rongée par le vermine, du souris, du mite, du ver du bois, ça sent du partout. Ça pouvait vraiment pas être pire pour les paysans qui vivaient là, je sais pas quand. Il y a des siècles.
Oh, probablement si, tu sais. Récolte gâchée. Famine, peste noire.
Oh, génial! Comme ça, on sait à quoi s'attendre. Oh, et puis, merde! T'es
Mark et Wheezy Rankin étaient la deuxième raison du désenchantement de Gemma. On savait toujours quand les Rankin débarquaient d'Angleterre. On voyait la Range Rover avec sa plaque MR2 et on faisait systématiquement la même plaisanterie MR2 égale emmerdeur. Les Rankin étaient, à ma connaissance, les seuls capables de se comporter dans la grande rue de Bayville comme s'ils étaient seuls dans leur salon.
Peut-être 16. Sam et Pauline, le personnel rentrant de Périgueux. Deux tartes avec prune, Mr. Gilbert. Humpty, laisse le croissant tranquille, tu veux?
Gemma a essayé de les éviter. Elle n'était pas venue en Normandie pour voir des British et leur marmaille geignarde, dit son journal. Mais inévitablement, dans une petite ville comme Bayville, ils ont fini par se rencontrer. De fil en aiguille, ils ont pris un verre et les Rankin leur ont fait une proposition qui tombait à pic. Travailler dans leur manoir, les portails. Charlie pour décaper leurs meubles anciens trop restaurés, Gemma pour peindre du faux marbre dans les salles de bain.
Il y a tellement de choses que je trouve répugnantes chez les Rankin. L'énorme prix manuel de Mark, les gammes de couleurs, les cabines téléphoniques rouges près de la piscine transformées en douches et cabines de bain. La flotte de lits bateaux en acajou, leurs autres maisons à Londres et à Verbier. La nounou et les domestiques qui permettent à Wheezy, devenue depuis peu chasseuse de tête, de jouer les mères et les hôtesses parfaites. Les parties de campagne, les invités qui ne se décommandent jamais et traversent la Manche en masse, sœurs, tantes, neveux, cousins, traders en parka de toile enduite, journalistes, hommes vivant un divorce difficile, une spécialité de Wheezy. La table mise pour 25, l'abondance, le gâchis, les bouteilles vides, l'odeur de l'argent, le parfum de la métropole.
Tout cela rendait Gemma malade. Pire, cela soulignait la précarité de sa propre situation financière, faisait paraître encore plus petit, plus sombre et sordide son cottage de rêve. Sous cette lumière, sa vie simple avec Charlie apparaissait comme une forme d'autopunition, sans joie, sans amis, recluse, ennuyeuse. La peur était la troisième raison du désenchantement de Gemma. Son journal le dit sans détour, passé les premières semaines d'extase, la maison et le paysage environnant la rendent très nerveuse.
C'est insupportable la nuit. Quand Charlie n'est pas là, je dors avec la lumière. C'est lamentable, mais je n'y peux rien. Je sais ce que sont ces bruits. Les chiens, les souris, les vers de bois, le toit qui fouille, etc. Mais ça me rend quand même dingue. Cet horrible grincement. Un bruit comme quelqu'un avec un long manteau de cuir qui monte sournoisement l'escalier.
L'extérieur était tout aussi dérangeant. Gemma prétend que lorsqu'elle allait faire des croquis dehors, le paysage la paralysait. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus dessiner, plus rien. Cela ne m'étonne pas. Après tout, la Normandie est le grand atelier du XIXe siècle. Comment ne pas penser à ces géants de la peinture, Millet, Monet, etc. Comment ne pas se sentir inhibé, ne pas envisager ces efforts comme des tentatives misérables?
Je flippe complètement sans aucune raison. Aujourd'hui, j'ai vu une tique dans le fougère. Je me suis rappelé avoir lu que les morsures de tique sont de mauvais augure et que les spores de fougère donnent le cancer. Après, j'entendais le moindre bruissement de feuilles, craquement de brindilles. C'est le problème avec la campagne, ça vous rend parano. Tu ressembles à ces endroits qu'on voit dans Crime Watch, le show des crimes non élucidés. Des coins idylliques et boisés, on retrouve le corps de la victime.
Les pharmacies sont la quatrième raison du désenchantement de Gemma. L'officine qu'elle a fréquentée le plus souvent pendant cette période est celle où travaille ma cousine Jeanne, qui sait tout sur tout le monde.
C'est bizarre. Les Français ont des pharmacies comme les Anglais des confiseries. Il n'y en a pas tout, même dans un trou perdu comme Bayville. Et pas tout, on se fait bombarder de pubs pour pas faire sa silhouette. En ville, ça paraît normal, mais ici, ça me tue. Je suis pas venue en Normandie pour penser aux crèmes pour les fesses.
Ah oui, celle-ci est très bien. J'ai de très bons retours des clientes. C'est à mettre après la douche. C'est une crème lifting bio suractivée. C'est-à-dire, en fait, elle agit...
Non, merci. Je voudrais juste une boîte de Tampax, s'il vous plaît.
Oh, vous devriez essayer, je vous assure. Elle est très agréable. Hein? Sinon, j'ai celle-ci aussi, qui déstocke la cellulite en un tour de main. Très efficace.
Non, vraiment, non. Je vous dois combien pour les tampons? Ce qui est génial en Angleterre, c'est qu'on peut ressembler à un tas pendant 10 jours sans que personne ne les remarque. Ici, on vous regarde comme si vous étiez sérieusement anormal. Les autochtones aussi, pas seulement les gens du week-end, ces clones de la princesse Caroline avec des plaques d'immatriculation de Paris. Les Français sont convaincus de la nécessité d'être en représentation 24 heures sur 24. Le gommage est un passe-temps national. Quel stress! Le temps que ça doit leur prendre, carrément à gerber.
Enfin, cinquième et dernière raison du désenchantement de Gemma, Charlie, son mari. Il a commencé à l'exaspérer. Tout le remplit d'enthousiasme. Il est si content à Bayville, si résolument optimiste au sujet de la maison et de ses défauts. Craquement, fuite, odeur de décharge, des détails selon lui auxquels ils vont remédier. Et tandis que Gemma s'impatiente et s'ennuie chaque jour davantage, Charlie incarne de plus en plus l'image du bonheur rustique à la française, ce bonheur qu'elle lui faisait miroiter quelques mois plus tôt à Londres. Et plus il est heureux, plus elle le trouve emmerdant.
Son béret le fait ressembler à un vrai con, un de ces types des pubs Stella Artois. Il pue la gauloise, mange en maillot de corps, verse du calva dans son café. Son sourire est bloqué en mode béatitude totale. Il se transforme en légume, j'en avais. J'ai de moins en moins de choses à lui dire.
Peut-être n'a-t-il plus grand-chose à lui dire non plus, parce qu'il est de plus en plus souvent absent. À Londres, pour voir ses enfants, livrer des meubles restaurés, prendre des meubles à restaurer dans le magasin d'antiquités de son frère. Le reste du temps, il est dans la grange. Il y passe des heures. J'ai souvent remarqué sa lumière encore allumée à minuit. Je supputais un rythme de travail stakhanoviste. Pas Gemma. Elle l'imagine en train de jouer à Doom, au démineur, au solitaire, en train de faire les mots croisés des journaux que lui gardent les Rankin. « Heureux », écrit-elle comme un porc dans sa bauge. J'en doute. Je me rappelle qu'une fois, je lui ai demandé des nouvelles de sa femme et j'ai vu son expression passer du mode endormi au mode traqué. Son regard émergeait d'un trou noir.
Charlie, je monte me coucher. Oh, n'oublie pas de laisser sortir le chien.
Ok. Je vais pas tarder non plus. Oh, écoute ça. J'ai encore trouvé une anagramme. Nats et angst. Mm. Les moucherons et l'effroi.
Ça sonne comme un titre de livre.
J'arrive, Carrington. Le chien, tu sais ce qu'elle a dans la tête? Si ce n'est pas un bébé, alors qu'est-ce qu'elle veut?
Gemma note qu'elle a envisagé à cette époque de rappeler Patrick Large, mais elle ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'elle ne savait pas très bien comment elle serait reçue. Pour l'instant, dans les pages du journal, je n'ai trouvé qu'une seule référence à ma personne. Étrange, parce qu'à un moment, elle me voyait tous les jours. Nos rencontres avaient lieu l'après-midi alors que chacun promenait son chien. Gemma suivait toujours le même parcours et bientôt, je l'admets, nos chemins ne se sont plus croisés par hasard. Je préméditais ces rencontres. La vérité, c'est que Madame Bovary me fascinait. Ce n'était pas une question d'apparence, ses vêtements étaient atroces et à cette époque, elle était grosse comme un muffin anglais. Ce qui m'attirait chez elle, c'était son nom. Ça m'amusait de la saluer d'un « Bonjour, Madame Bovary ». Elle me regardait d'un air absent, comme si la référence ne signifiait rien pour elle. En lisant son journal, je me rends compte que ce n'était pas le cas. Elle songeait à reprendre son nom de jeune fille.
Parce que tout le monde, à commencer par le futur boulanger, fait des commentaires sur Madame Bovary. C'est assommant.
À quoi s'attendait-elle en vivant ici? Nous ne sommes pas des paysans. Nous lisons des livres, certains d'entre nous essayent même d'en écrire. Moi, le boulanger auquel elle fait si désobligeamment référence, j'ai écrit un mémoire universitaire sur la franc-maçonnerie et la révolution dans le Rouen du XVIIIe siècle. Il a même été question de le publier. À la cinquième rencontre, je l'ai mise à l'épreuve.
Vous savez, votre nom, il a une grande résonance en France, une résonance littéraire. Le chef-d'œuvre de Flaubert.
Ah oui, je sais, c'est un film.
Pardon?
Ah non, c'est un livre.
C'est ça. Et vous ne l'avez pas lu?
Oh non, 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 mon français n'est pas assez bon.
Ah.
Bon, je tourne là. Je vous dis à bientôt.
À bientôt.
Ok.
À bientôt. Quelle arrogance. Ils viennent vivre ici, mais ne font pas le moindre effort pour s'intéresser à la culture. Quelque temps plus tard, Gemma a changé de parcours. Peut-être se promenait-elle ailleurs. Pendant des mois, je ne l'ai vue que de loin. Vêtue d'un grand manteau, elle marchait d'un pas morose vers la poste, où arpentait son jardin. Puis un jour, en août, m'abritant d'une averse dans les bois de Bailleville, j'ai entendu des soupirs angoissés. J'ai aperçu le chien Carrington, puis je l'ai vu, elle. J'ai pensé, mon Dieu, elle est devenue mince. À ce que je sais, une chose plus que toute autre fait soupirer les femmes. C'est alors que je me suis autorisé cette chimère, l'idée que Gemma Bovary, comme son homonyme, était amoureuse. À cet instant, j'étais prêt à parier ma couille gauche que Gemma Bovary avait un amant. Son journal m'apprend que ce n'est pas l'amour qui a fait maigrir Gemma, mais un régime horriblement rigoureux et un entraînement tout aussi rigoureux sur un rameur. Qu'est-ce qui l'a poussée à ça ? L'ennui, certainement, et le dégoût d'elle-même, le narcissisme peut-être et l'envie de se punir. Une préparation à la fuite aussi bien qu'à l'immobilisme. Elle parle de quitter la France, de travailler à Londres ou à New York, puis elle écrit qu'elle veut rester, s'intégrer, apprendre la langue, vivre à Paris ou en Provence. Elle dit qu'elle veut quitter son mari, puis qu'elle veut rester avec lui, leur donner une seconde chance. Elle est dans une totale indécision.
Oui, ça va arriver. C'est ta douce moitié qu'on entend, Charlie?
Oui, elle est en haut. Elle apprend le français en faisant sa gym.
Oh. Une vraie petite indigène, hein? Ah. Ça, c'est la vie. Quel pied.
Tu l'as dit, Marc. Comme à la maison, mais en mieux.
Moi, j'aime ça ici. Wheezy se pose des questions. Elle préférait un truc près de la Loire, un endroit plus chaud. Je trouve que c'est trop loin pour les week-ends, la Loire. Oh, bon Dieu, Charlie, c'est quoi cette odeur? C'est ta fosse septique?
Ben, c'est pas mon aftershave.
Ça, c'est sûr. Ça sent le champ d'épandage. Quelle belle odeur. Oh, oh, quel crétin. Quel crétin abyssal.
Mardi après-midi. 20 minutes pour les cuisses. Réviser les verbes venir et vouloir. Après le conditionnel. Dans une minute, il va falloir que je descende faire des sourires à ces fichus Rankin. Ça me tue. Mais quoi qu'il arrive, j'ai besoin de gagner de l'argent. Wheezy a dit qu'elle voulait que je fasse des pochoirs dans sa cuisine. Son goût de chiotte habituel, je suppose. Va falloir que je serre les dents. Les Rankins sont bourrés de fric, mais radins. Ils traitent Charlie comme une sorte de gardien, toujours à l'appeler de Londres pour lui demander d'envoyer le courrier, enlever les feuilles de gouttière, etc. Il le paye pas et ça lui est égal. Oh, bon Dieu, j'ai longtemps en bas avec Mark. Parfois, j'ai l'impression d'être dans le Surrey, pas en France. Plus tard. Soirée épouvantable. Les Rankin étaient là à picoler dehors avec Charlie. La puanteur de la fosse était vraiment infecte. Impossible de respirer en bas. La maison entière sentait les chiottes publiques. Wheezy avait apporté un de ses paniers britanniques de merde, Marmite, Weetabix, le Sunday Times de la semaine dernière. Je m'étais cachée dans le salon pour lire et elle est arrivée et a commencé à déblatérer sur cette foutue maison.
Oh. Gemma! Gemma!
Oh, tu me fais peur.
Tu te caches! Oh, est-ce que c'est joli chez toi? J'adore! Les huitres, elles sont avec le tabouret! Et les foufous! Adorable! Tu sais, tu devrais vraiment faire un métier.
Gemma, tu es si douée! J'aime ta déco. C'est tellement charmant.
Petit paysan. Tu dois adorer vivre ici, non?
Non, en fait, je déteste.
Mais pourquoi? C'est juste une canalisation bouchée. C'est super ici. Londres te manque, c'est ça? Moi, ça me manquerait si on était là à plein temps. On doit se sentir seul. Tu vois, je crois qu'il faut avoir toujours plein d'invités. Pour que ce soit amusant.
Non, mais je veux pas d'invités, je veux connaître les gens d'ici, moi.
Les Français! Tu sais, ils sont affreusement difficiles à connaître. Sauf si on les connaît déjà. Vachement amicaux dans les boutiques. Et les maçons sont adorables. Mais les autres froggies s'en tapent de nous. Mm. C'est un peu normal, non? Tu dis quoi, là? C'est le cahier style du Sunday Times que j'ai apporté. On parle d'une amie à nous là-dedans. On était voisins à Elgin Crescent. Maintenant, elle vit à Clerkenwell. Pandora. Regardez-la, Pandora Kent.
Oh, excuse-moi.
Je sais pas ce que j'ai dit, Mark, mais elle a quitté la pièce en courant. Vraiment, quelle grossièreté. Fut-il névrosé?
Ça ne m'étonne pas, à vivre dans cette baraque déprimante. On dirait le musée de l'agriculture.
Oui, c'est lugubre.
J'ai failli m'évanouir en voyant le papier que me montrait Wheezy. Bon Dieu, il y a tout un article sur eux. Pandora et Patrick, il a épousé. L'enfoiré. Il est marié et il a un bébé. J'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais gerber.
Pauvre Gemma, elle passe une nuit agitée. L'article que j'ai retrouvé découpé dans son journal clignote dans son sommeil comme un monstrueux panneau d'affichage. Voilà son ex-amant, avec sa nouvelle femme et son bébé, son fauteuil Le Corbusier, dans la blanche luminosité de leur vaste appartement, et la voilà, elle, s'éveillant dans la routine grise de son mariage et la fermentation de ses canalisations déficientes.
Quel jour on est, Gemma? Tu es déjà levée?
Mercredi, Charlie. Oui, je me suis réveillée de bonne heure. Je vais aller à Bayville m'occuper des canalisations, acheter un débouchévier, louer un furet et peut-être même trouver un plombier.
Oh, je m'en serais occupée, chérie.
Oh, je n'en doute pas, Charlie. Quand tu te serais décidée, hein?
C'était Gemma Bovary de Posy Simmons, adaptation radiophonique de Lili Stein. Cinquième épisode avec Elodie Huber, Gemma Bovary, Vincent Schmitt, Raymond Joubert, Laurent Lederer, Charlie Bovary, Léonie Pinjot, Martine Joubert, Brontis Jodorowsky, Mark Rankin, Chloé Baker, Wizzy Rankin, Françoise Gaziot, La Pharmacienne et bien d'autres. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Pierre-Henri, Manon Dubus, Jean-Mathieu Zande. Traduction, Lili Stein et Jean-Luc Fromental. Gemma Bovary est publiée aux éditions de Noël. À lundi.